Lection de théologie à Rimont par le père Marie-Dominique Philippe, le 2 juin 1989, ayant pour thème Marie.
J'ai essayé de vous donner premier cours sur Marie dans la perspective de la théologie de l'économie divine. Une grande synthèse, tant qu'on peut la donner. Et après, on a essayé de voir le point de départ de ce rôle de Marie dans l'Église, dans l'humanité, avec le mystère de l'Immaculée Conception et le terme, le mystère de la compassion. Je crois que c'est important quand il s'agit d'un regard de théologie de l'économie divine de toujours bien comprendre le point de départ et le terme, le sommet. C'est évident que dans l'économie divine, la place de Marie est très étonnante. Il se dévoile de plus en plus, vous voyez. Ça qui est impressionnant. J'allais dire que c'est presque pour nous. Le mystère de l'Immaculée Conception, c'est pas vieux comme proclamation. Le mystère de l'Assomption, non plus. Mais je crois que l'Assomption doit être vue dans la lumière de la compassion vécue dans la gloire et pour la gloire. Marie étant tellement relative à Jésus sous le souffle de l'Esprit Saint que de la mort du Christ ou de la résurrection, je dis de la mort du sépulcre jusqu'à l'Assomption de Marie, les apparitions ne sont pas quelque chose de nouveau, c'est une confirmation. Ce sont des signes qui sont donnés pour confirmer les apôtres. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'apparition à Marie. Elle n'en avait pas besoin. Ça lui est peut-être étonné par surcroît. Ça, c'est très possible. Ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est par surcroît. Elle n'en avait pas besoin. Tandis que les apôtres en avaient besoin. Pierre en avait besoin, Jean aussi. Jean peut-être moins, puisque quand il est entré dans le sépulcre, ça a suffi. Donc ça a été du surcroît. C'est peut-être pour ça qu'il s'est signalé qu'il n'a pas attendu l'apparition pour croire. Tandis que Pierre, oui, les apôtres, oui. Thomas, il fallait une apparition pour lui particulière. Très étonnant, la théologie des apparitions. Et Marie est au-dessus. De sorte que c'est vraiment la compassion qui implique le mystère du sépulcre, puisque la compassion implique l'agonie, la croix et le sépulcre. Ce triptyque. C'est le mystère de la compassion qui est le mystère ultime de Marie, vécu de plus en plus, jusqu'au mystère de l'Assomption, de la dormition de Marie. Entre deux, c'est toutes les étapes de la vie de la Très Sainte Vierge. Celles qui nous sont données dans l'Écriture, pas celles qui nous sont données dans les révélations privées. Bien distingué. Le théologien ne peut utiliser que ce qui est donné dans l'Écriture, avec la tradition. Toutes les révélations privées, il ne faut pas les mépriser, mais elles ne nous permettent pas de faire une théologie. Il faudrait donc regarder toutes les étapes de la vie de la Très Sainte Vierge pour comprendre comment Marie est le modèle de notre vie de foi et d'espérance. Vous voyez, c'est ce que le Concile Vatican II nous montre d'une manière très nette. À ce point de vue-là, c'est le Concile qui a le plus parlé de Marie. Il ne nous a pas révélé un nouveau dogme, mais il montre Marie dans son exemplarité. Marie, modèle de la croissance de la charité. Parce que c'est grâce à la foi et à l'espérance que Marie peut croître dans l'amour, au sens tout à fait précis. Jésus ne connaît pas cette croissance. Il est au-dessus. Il y a une croissance dans l'ordre de l'expérience mystique, spirituel. Il grandissait en sagesse. Mais pas dans l'ordre de la charité, au sens intérieur. Jusqu'à la croix, jusqu'au dernier moment de l'offrande de sa vie, Jésus a toujours grandi dans l'ordre de l'expérience. Il ne faut pas l'oublier, ça. Tandis que Marie a grandi dans l'ordre de la charité, de la grâce. Elle est modèle pour nous de la croissance de la charité, modèle de la foi, modèle de l'espérance, modèle de la vie religieuse, modèle de cette vie vers la perfection. C'est ça que nous devrions regarder. Comment Marie est-elle modèle de la croissance de la charité? Il n'y a pas de conversion en Marie. Elle n'est pas modèle des convertis. Elle est la conversion comme telle. Elle est modèle de la foi, de l'espérance et de la croissance de l'amour. Il n'y a jamais eu en elle le moindre arrêt dans cette croissance de l'amour. À ce point de vue-là, c'est quelque chose de très grand. On va la suivre dans ces différentes étapes de joie, de lutte, de souffrance, de gloire. Le rosaire simplifie, parce que c'est une pédagogie maternelle. Mais au point de vue théologique, il faut regarder ces diverses étapes de la vie de Marie. Les mystères de joie, tels que Luc les raconte, pour mieux saisir ce qu'est cette maternité pauvre de Marie à l'égard de Jésus. Elle est la plus pauvre de toutes les mères, et la plus joyeuse de toutes les mères, la plus aimante de toutes les mères. Petite remarque, il ne faut jamais s'oublier, de Saint Albert le Grand. Marie est la mère la plus joyeuse parce que aucun fils n'a autant ressemblé à sa mère. C'est vrai. La joie de la mère, c'est justement de voir comment son fils prolonge cette source de vie qui est la mère. Et comment elle retrouve dans son fils ce qu'il y a de plus intime dans son cœur, de plus profond. Et entre Marie et Jésus, il y a un lien unique. Dans les autres enfants, il y a toujours deux atavismes qui se battent et qui s'unissent. C'est vrai. Et donc, il n'y a pas une ressemblance absolue. Tandis qu'en Jésus, il y a une ressemblance parfaite à sa mère. C'est très beau, ça. Comme petite remarque de théologien. Et Saint Albert insiste montrant comment Jésus avait un oui particulièrement profond, d'une finesse très unique, pour entendre toutes les nuances de la voix de Marie. Et c'est vrai des deux côtés. Autrement dit, leur dialogue était particulièrement beau et grand, sans jamais aucune brisure, une harmonie parfaite, une harmonie plénière. La vision, on pourrait dire ça pour tous les sens, de Jésus. Comme il est l'homme parfait, il y a en lui une sensibilité bien plus grande qu'en nous. Nous avons une sensibilité d'hippopotame comparativement à celle de Jésus. Dites jamais que vous êtes trop sensible. C'est pas vrai. Jésus était bien plus sensible que vous. Une sensibilité bien plus. Une sensibilité parfaitement rectifiée. Une sensibilité au service de son affectivité volontaire, sa capacité d'aimer, et de son intelligence, de son imagination. Mais quelque chose de particulièrement grand, comme lien, il faut relire tout ce que Saint Luc nous dit sur cette vie cachée pour comprendre comment la foi de Marie s'est développée à travers ces mystères de joie. Et voyez, on ne dit rien de la foi de Marie avant. Rien du tout. La tradition dit Marie s'est présentée au temple, Marie s'est consacrée à Dieu, mais on ne dit rien. Au point de vue de l'écriture, ça commence avec l'Annonciation. C'est la vocation de Marie, l'Annonciation. La vocation dans ce cas-là de plus fort. Et là, elle est modèle de toutes les vocations. Quand Jésus la quitte et que Jésus va au désert, on peut là comprendre que Marie a connu une solitude qu'elle n'a jamais connue avant. Il y a toujours eu Joseph ou Jésus. La période de solitude de Marie, c'est quand Jésus va au désert. Et Marie a connu, à ce moment-là, sûrement, de grandes luttes. Mais on ne nous dit rien sur ces luttes, si ce n'est qu'on peut transposer celles que Jésus a subies, Marie les a subies. Et ensuite, la vie apostolique de Jésus. Alors, toutes les luttes que Jésus a subies dans sa vie apostolique, Marie, qui le suivaient, les a vécus. Là, il y a tout un développement qu'on n'a pas fait ordinairement dans un traité de mariologie. Il serait très intéressant à faire. Oui, on verrait certaines symbolismes ou images dans l'Ancien Testament ou l'Apocalypse. On va en parler tout à l'heure. Et puis, le mystère de la croix. Les mystères de douleur. Et les mystères de gloire. Oui, dans cette croissance de la charité, on peut ponctuer des mystères de joie, des mystères de lutte, des mystères d'agonie, de croix et de sépulcre. Et des mystères de liberté intérieure. Si Marie vit sur la terre la gloire du Christ et la résurrection, elle vit dans cette liberté intérieure. Une espèce de liberté très étonnante que Marie a connue dans ses mystères de gloire. croissance qui implique, croissance de la charité, qui implique une croissance dans l'ordre de la foi. Si on veut connaître parfaitement ce qu'est le mystère de la foi, il faut le regarder dans la béatitude de Marie qui vit la foi. Et Marie a vécu toujours la foi, puisqu'elle a toujours vécu une plénitude de foi, comme une béatitude. Non, il y a des moments où la foi n'est pas une béatitude. Tandis que Marie l'a vécu toujours comme une béatitude, de joie, de lutte, de souffrance et de liberté à Dieu. Très étonnant, ça. Oui, il y aurait une chose très très belle à faire. Si j'avais le temps. Quelque chose que je porte depuis longtemps et que j'aimerais que vous puissiez le faire, parce que c'est très beau à faire. Voir Abraham. Toute l'histoire d'Abraham au niveau de la foi. Il est justifié par sa foi. 75 ans. L'âge où les évêques doivent donner leur démission. Et Dieu choisit Abraham. Donc Dieu choisit les évêques au moment où ils donnent leur démission. Pour qu'ils aient cette croissance merveilleuse dans la foi. À ce moment-là, ils peuvent mener une vie contemplative. Ils deviennent des vieillards de l'Apocalypse. Il y a toute la croissance, tous les épisodes, et puis c'est décrit là. C'est une grande montée vers le moment où Abraham quitte cette terre. Et puis la croissance de Marie. Donc, il y a un parallélisme très très beau. Abraham est le père de tous les croyants. Et Marie est la mère de tous les croyants. Abraham était l'exemplaire de l'Ancien Testament. Marie est le modèle du Nouveau Testament. La paternité dans la foi, Abraham. Il demeure pour nous père dans la foi. Ah, ça c'est très beau. Il faut se demander pourquoi c'est une mère qui est le modèle de la foi. Comment la foi s'inscrit mieux dans le cœur, dans l'intelligence d'une femme, d'une vierge, d'une mère, que dans un homme. Et ça c'est vrai. La foi nous fait enfant de Dieu. Et la femme est toujours beaucoup plus proche de l'enfant. Comprend mieux. Et il y a quelque chose de très particulier là. Parce que c'est vrai que la foi nous fait enfants de Dieu. Et des tout petits enfants, des tout petits enfants du Père. Et c'est une école maternelle la foi. Pas seulement une vie, mais toute la vie. C'est une école maternelle. C'est pour ça qu'on a besoin d'une mère. Oui, si on joue au grand dans la foi, on est tout le temps dépaysé. Et scandalisé. Il faut jouer, il faut entrer dans ce que représente cet enfant. Faisons attention, c'est pas psychologiquement une enfance. Hein. Ne confondons pas la petitesse évangélique et la petitesse psychologique. Hein, c'est tout à fait autre chose. Il faut être prudent comme des serpents. Et simple comme des volants. Donc on acquiert une prudence de serpent au niveau prudentiel, au niveau de notre vie humaine. Et on est comme des tout petits dans l'ordre divin. C'est comme un secret qu'on porte. On est des tout petits. Petitesse évangélique. Il ne faut surtout pas confondre. Hein. Parce qu'alors, le noviciat deviendrait, n'est-ce pas, une école maternelle très particulière, ça n'irait plus du tout Puis quand on quitterait la vision, on pleurerait tout le temps, parce que le biberon, c'est plus année à la même heure. Alors ça n'irait pas. C'est le noviciat doit être une école de force et de petitesse. On apprend la prudence et l'école de petitesse. On devient comme des tout petits, enfants de Dieu. Ça, c'est. Et ça fait comprendre pourquoi Marie nous est donnée comme mère pour nous apprendre la foi, pour nous apprendre la croissance de la foi. Et c'est la même chose pour l'espérance. L'espérance est toujours aussi pour les. Ça nous met dans un état de petitesse évangélique. C'est pas l'amour qui nous met dans l'état de petitesse. C'est la foi et l'espérance. Évidemment, imprégné d'amour, mais pas l'amour. Puisque l'amour que nous vivons sur la terre est substantiellement le même que nous vivons dans le ciel. Et il y a constamment des confusions dans cet ordre-là. Faire attention. Et Marie nous est donnée pour cela, pour nous éduquer dans l'ordre de l'amour, non, pour nous éduquer dans l'ordre de la foi et de l'espérance, et nous faire croître dans la charité. Donc devenir des êtres forts dans la charité, capables du martyr. Parce que c'est ça la force, être capable du martyr, capable d'affronter la mort. Donc, comprenons bien comment toute la vie de Marie, telle qu'elle nous est écrite dans l'Écriture, telle qu'elle est annoncée dans l'Ancien Testament, doit nous aider à comprendre cette grande croissance de la charité, de la foi et de l'espérance. Je n'en dis pas plus, hein, parce qu'on m'a demandé de terminer sur l'Apocalypse. Il n'y a pas de questions là-dessus. Pour que s'il y a encore des questions, vous ne partiez pas avec des questions dans la tête. Dès qu'on a une question, on la pose, hein, tout de suite. C'est plus simple. Donc comprenez bien que le Concile Vatican II, en nous parlant de Marie, modèle de la croissance de l'amour, nous donne quelque chose qui est traditionnel. C'est pas une découverte, c'est traditionnel. Marie, modèle de la croissance de l'amour, on peut dire que ça fait partie du patrimoine de l'Église. Et c'est beau de voir qu'un concile le dit. Oui.
Je me pose la question sur la charité de Marie au moment de son Assomption. Enfin, sa capacité d'amour par rapport à Dieu qui a une capacité infinie. Donc quel est le désir de Dieu en Marie?
Je dirais qu'en Dieu, il n'y a même plus de capacité.
Oui.
Alors, il n'y a plus que l'amour substantiel.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fini en Marie.
Forcément, elle est une créature. Marie reste éternellement une créature.
Et donc Dieu a choisi la limite de sa capacité.
Dieu a choisi, forcément. Je crois que ce qu'on peut dire, vous voyez, le Père, son Fils, hein. Prenez le petit ordre. Le cœur du Père, amour substantiel. Parce qu'on parle du cœur du Père. Le Père, il a un cœur, quand même. Et le Sacré-Cœur, c'est faire entrer dans ce cœur du Père le Christ, sa nature humaine, son cœur humain est déjà créé, donc il est limité. Tout ce qui est créé est limité, ontologiquement. Mais le cœur du Christ, par la grâce qu'il a reçue, reçoit une capacité d'aimer quasi infinie. Donc, la charité, l'agapé, quasi infinie dans le cœur de Jésus. Une plénitude de grâce mesurée par le mystère. mystère de l'union hypostatique. Donc mesuré par l'amour substantiel du Père, puisqu'il est le Fils bien-aimé. C'est prodigieux, ça, du reste. On ne peut pas le comprendre, hein. Mais on doit l'affirmer. Marie, sa charité, elle est mesurée par celle de Jésus. De sa plénitude, nous avons tous reçu, même Marie. Marie a reçu de la plénitude de la grâce du Christ. Et Marie n'a cessé de grandir. Au terme de sa vie, je crois qu'elle atteint la plénitude de grâce du Christ. Autant qu'une créature pure peut l'atteindre. Elle est totalement dépendante du Christ. Elle a tout reçu de lui et lui donne tout. Oui, c'est par rapport à la plénitude de grâce du Christ qu'il faut regarder cette plénitude de grâce de Marie. Dans le mystère de la dormition, dans le mystère de l'Assomption. Oui.
Père, là, vous dites qu'à la fin de sa vie, elle atteint la plénitude de grâce du Christ et l'ange de l'Annonciation dit « Salut, pleine de grâce ».
Oui, oui, oui.
Comment ça se fait?
Il peut y avoir une croissance dans la plénitude. c'est pas du tout impossible, ça. Plénitude parce que elle a une grâce à l'Annonciation qui dépasse la grâce de l'ange. L'ange est salué comme sa reine. Elle a une plénitude de grâce qui est déjà une grâce qualité surhumaine. Et elle a grandi. Donc sa plénitude atteint une plénitude encore. La plénitude de grâce, c'est qu'au moment où l'ange l'a vue, Marie était en conformité plénière avec la plénitude que Dieu voulait lui donner. Oui. C'est une plénitude mesurée, Marie. Le Christ, c'est une plénitude quasi infinie. C'est la même plénitude au terme de la vie de Marie, mais une plénitude reçue par Jésus. Tandis que celle de Jésus n'est pas une plénitude reçue. C'est une plénitude qui s'est épanouie en lui à partir du mystère de l'union hypostatique. Mais oui.
Est-ce qu'on peut dire que à la dormition, le dernier acte de foi de Marie n'est plus un acte de foi?
Non, puisqu'il est un acte de foi. Un acte de foi qui va se terminer, qui va disparaître dans ce lumen glorieux qui lui est donné.
C'est donc le dernier acte de foi de Marie à l'intermission est encore un acte de foi.
Il y a un terme. C'est un acte de foi qui est fait dans l'amour. Un dernier acte d'amour mesuré par la foi, mesuré, conditionné par la foi. Parce qu'au sens strict, la charité n'est pas mesurée par la foi. La charité va plus loin que la foi. Mais tout acte de charité exercé sur la terre est conditionné par la foi, est conditionné par l'espérance. C'est pour ça que la charité n'est pas pleinement libre. Oui.
Je pose la question parce que vous dites que la charité de Marie à la fin de sa vie atteint le degré de plénitude de la charité du Christ.
Oui, c'est une plénitude.
Et le degré de plénitude de la charité du Christ implique justement qu'il n'y a plus de possibilité d'acte de foi.
C'est pas la même chose. Parce que Marie a atteint cette plénitude à partir de Jésus. Plénitude reçue. Donc mesuré par celle de Jésus. Et il lui fallait cette condition. l'action de la foi pour atteindre ce dernier acte. Et à ce moment-là, atteignant ce dernier acte, la foi disparaît et c'est la lumière de gloire. Mais elle est au seuil, là. Elle n'est pas demeurée dans cette plénitude. En atteignant cette plénitude, elle a quitté le Père. Bon. Alors, maintenant, où on peut terminer ? On peut dire quelques mots sur l'Apocalypse, parce que j'ai déjà beaucoup parlé de l'Apocalypse aux frères et sœurs. Et comme il n'y a plus beaucoup de membres de la session, hein, je vois que ça a fondu la fin de... Moi, je veux bien, mais c'est pas pour... Je dis pour les frères et sœurs qui ont déjà insisté, je veux bien dire quelques mots sur l'Apocalypse, rapide. C'est Père Samuel qui m'a demandé, parce qu'il voulait que ce soit le dernier cours sur l'Apocalypse, étant donné qu'il faisait des cours sur les fins dernières, et que l'Apocalypse est le grand livre des fins dernières. Alors, je dis quelques mots rapides sur... l'Apocalypse. Premièrement, je crois que l'Apocalypse n'a pas été écrite comme le dernier livre. Pour nous, c'est écrit comme le dernier livre. Je crois. Et ça a de l'importance pour nous. Le dernier livre de l'écriture révélée, c'est l'évangile de Jean. Jean avait communiqué à Luc tout ce qu'il pouvait lui communiquer. C'est pour ça que je crois que dans l'évangile de Saint-Luc, la source principale, c'est Jean. Très intéressant de le souligner. Il travaille à faire aussi. Jean, poursuivi par les premières persécutions, quitte les îles mineures et se réfugie à Patmos. Vers l'an 90. Et là, l'Esprit Saint l'attendait. Il est saisi dans une grande extase. Il le dit. Une extase qui lui permet encore d'écrire. Qui n'est pas les yeux en l'air suspendus. Non. Une extase très très profonde qui laissait toute la liberté. Et c'était Marthe qui, à la fin de sa vie, faisait cette petite réflexion que j'ai trouvé ça très, très belle. Elle disait qu'au début, elle avait été saisie par la grâce, et puis entrée en extase, j'étais séparée de tout le monde. Maintenant, quand Saint-Esprit me saisit, je suis encore présent. Ça fait comprendre beaucoup de choses. Ça fait comprendre que la grâce sanctifiante, quand elle est très très forte, au terme de sa vie. Et c'est au terme de sa vie pour Saint-Jean. Ne brutalise pas la nature. Intensifie l'amour, mais n'est pas violente. Une extase qui vous renverse par terre, qui vous met dans un état complètement de... Il veut dire aux théologiens que les femmes ont plus facilement d'extase que les hommes, parce qu'elles ont une nature plus fragile. Ça, c'est les théologiens qui disent ça, c'est Cacheton qui dit ça. Non, mais on peut très bien, Cacheton, mon théologien, dit ça. Jean reste avec la capacité d'écrire.
qui est sûr, c'est qu'il a vécu l'Apocalypse d'une manière extatique. Donc, il n'a pas consulté, lié l'Apocalypse avec toutes les visions eschatologiques et apocalyptiques de l'Ancien Testament. Ézéchiel, Daniel, le recopier, puis le perfectionner, c'est quelque chose de plus. Du papier pour le colonna. Non, 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 pas du tout. L'Apocalypse est écrite en seul jeu. Ça, c'est extraordinaire. Avec une liberté joannique complète. Et je crois que Jean, ayant reçu cette révélation tellement forte, parce que quand on lit l'Apocalypse attentivement, Jean, à partir de cette révélation de l'Apocalypse, a été poussé par l'Esprit Saint d'écrire la première épître et d'écrire les secrets qu'il n'avait pas encore écrits et qu'il ne pouvait pas communiquer à Luc. Très mystérieux, ça. Non, pas du tout, parce qu'il voulait garder des réserves. Faire un évangile avant, après, pas du tout, je crois qu'il n'y pensait pas du tout. Il était forcé d'écrire son évangile. Il est sous cette mouvance de l'Esprit Saint, très très forte. N'oubliez pas que Jean est le dernier des apôtres. Cette génération ne passera pas avant que je revienne, avant que le Fils de l'homme revienne. Jean a écouté cette parole, il s'est entendu. Or, il est dernier, il est vieux. Il ne va pas vivre comme Mathusalem. Il va se lire. Pourquoi ? Et l'Apocalypse est donné. Je crois, pour que Jean comprenne cette parole, cette génération ne passera pas. La génération des apôtres et des témoins du Christ. Cette génération-là ne passera pas avant qu'on revienne. C'est pour ça que quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il encore la foi ? Il y aura la foi, il y aura des témoins, mais ils seront plus très nombreux, ils seront moins nombreux, mais qui reste. Le qui reste, ça ne va rien du tout, qu'il n'y ait pas, chez dans certains pays nouveaux, pas de apostasie, comme un printemps, oui, le printemps de l'Église, la Corée. C'est pas dans l'église. C'est extraordinaire. Vous avez tous vu les photos du pape en Corée. C'est extraordinaire. C'est vraiment le printemps. L'Afrique aussi, d'une autre manière. Un printemps contaminé par les musulmans. Il y a un frein à ce printemps. Et qu'en Corée, une espèce de splendeur. Quand j'étais en Corée, je n'ai pas été très longtemps, simplement pour tâter le pouls, si j'ose dire, j'étais reçu dans une congrégation religieuse où il y avait 75 novices. Tenez compte. J'avais demandé, oh oui, dans l'autre, il y en a encore plus, il y en a 105. Et dans l'autre aussi, une, un printemps, étonnant, on peut s'imaginer, quelque chose d'une force, d'une vitalité prodigieuse au peuple chrétien. Et j'ai bien vu, parce que, vous voyez, il faut quand même circuler un peu dans la capitale. Et je voyais la manière dont les chrétiens, vous savez. Alors, je comprends que l'Apocalypse est donné à Jean pour que l'on comprenne cette attente du Christ. Parce que l'Apocalypse, c'est ça, c'est le livre de l'attente du retour du Christ. C'est le livre qui nous montre que l'Église doit vivre de cette dimension de l'attente du retour du Christ. Que c'est essentiel à la vie chrétienne. Celui qui n'attend plus le retour du Christ n'est plus parfaitement chrétien. Il s'installe. Et il s'est déjà installé. Et donc il lui manque cette vitalité profonde d'être en attente du retour du Christ. C'est essentiel à notre espérance et à notre foi. Autrement, Jésus reviendra comme un voleur. Or, il ne veut pas venir comme un voleur. Il veut venir comme l'époux qu'on attend. Et ça, c'est très très net, tout l'Apocalypse nous le montre. Donc, c'est important, vous voyez. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que l'évangile de Saint Jean nous montre ce qu'est la foi. Dans sa croissance contemplative, l'Apocalypse nous montre ce qu'est l'espérance dans son attente du retour du Christ. Et la première épître de Saint Jean nous montre ce qu'est la charité chrétienne. La charité fraternelle, surtout, mais aussi la charité à l'égard de Dieu, parce que c'est là où est affirmé Dieu d'amour. L'Apocalypse. Comment lire l'Apocalypse? Parce que c'est un livre difficile à lire. Et qu'il faut lire. Lire et relire et relire et relire. Quand vous aurez lu ça dans l'Apocalypse, vous commencez à comprendre quelque chose. Heureusement, dès le point de départ, vous commencez à comprendre quelque chose. Mais vraiment, c'est un livre inépuisable. Comme l'évangile du reste. L'évangile spécialement. C'est pour ça qu'il faut le lire très vite. Pour ne pas attendre sa vieillesse pour le lire. Parce que ça permet de garder un élan très grand. Ça permet d'assumer toutes les luttes. Et de considérer que toutes les luttes qu'on a, au noviciat ou en famille, c'est pas grand chose. Comparativement à la grande lutte de l'Église. Mais l'Apocalypse, si on comprend que l'Église doit vivre la même mission que Jésus, et que c'est Marie qui vit cette mission, l'Apocalypse est donc le livre qui nous montre comment l'Église vit du mystère de la compassion. Et c'est montré ça dans ces grandes luttes. L'Apocalypse, c'est une lumière d'éternité sur le processus, le cheminement qui est dans le temps du pèlerinage de l'Église. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas lire l'Apocalypse dans une lumière historique. Je crois que c'est contraire à ce que l'Esprit Saint veut. Il y a beaucoup qui lisent comme ça l'Apocalypse, en mettant en note tous les événements historiques. C'est très vrai. Je peux dire pour tous les temps, l'Apocalypse, dans la lecture, est plus vrai aujourd'hui que ne l'était au temps de saint Thomas, que ne l'était au temps de saint Jean. Elle est plus vraie. Donc, elle est plus facile à lire pour nous. Parce qu'on voit beaucoup plus de choses qu'on comprend et qu'on n'aurait pas pu comprendre au Moyen Âge. On voit combien l'Église est secouée. C'est pour ça que je dis, c'est une lumière d'éternité sur la vie de l'Église actuelle. Et je peux dire que tout ce que l'Église vit actuellement, l'Apocalypse nous montre. C'est pour ça que l'Apocalypse nous aide beaucoup à avoir une lecture vraie de cette théologie d'économie divine. On ne peut pas faire une théologie d'économie divine sans regarder l'Apocalypse, sans voir l'Apocalypse. Une fois qu'on a compris ça, on peut se mettre à lire. Vous cherchez toujours dans l'Apocalypse le mystère de l'Église militante. Et le mystère de l'Église qui lutte, non pas avec des armes humaines, mais des armes divines. C'est le combat du petit David contre Goliath. Et ça nous montre toujours ce combat du petit David face à Goliath. N'est-ce pas, nous, là, c'est très beau, et c'est très grand. Comme le petit David, c'est nous, et c'est l'Église, ça nous donne une très grande force. Je crois que l'Apocalypse nourrit notre espérance de manière très unique. Alors, une fois que vous avez vu ça, l'Apocalypse se divise de cette manière. Le début de l'Apocalypse, qui implique une grande vision sur le ciel. Une vision de Jésus dans la gloire. Une vision du sacerdoce du Christ dans la gloire. Ça nous montre tout de suite que l'Église est sacerdotale à la lumière du sacerdoce du Christ. Donc ce sont des luttes sacerdotales. Tout le temps. Au serpent, au dragon, à l'adversaire. L'antichrist se sert des hommes. L'antichrist, c'est le serpent qui trompe l'homme. L'antichrist, c'est le dragon qui se sert de l'image de la bête de la terre et de la bête de la mer. On nous montre la stratégie du démon. Donc, première vision, premier moment de l'Apocalypse, la correction des sept églises. À partir du chapitre 4, vous entrez proprement dans l'Apocalypse qui annonce les grands combats. Avant, c'est une vision sur l'Église et une correction. L'Église a toujours besoin d'être corrigée. Ce ne sont pas les théologiens qui ont mission de corriger l'Église. C'est l'Esprit Saint et le Christ. Les théologiens, quand ils se mettent à critiquer l'Église, font très mal. Pas que les théologiens, les chrétiens laïcs aussi, font ça très mal quand ils corrigent l'Église. On n'a pas corrigé sa mère. Corriger sa mère, c'est très mal placé. Si on veut être un petit enfant de Dieu. Avec le chapitre 4, on entre dans la grande vision du ciel. Et là, c'est très très beau. Et dans cette vision du ciel, on voit que celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu le Père, il a un petit lit. Celui qui était assis sur le trône, sur la main droite, un livre écrit au-dedans et par des liens, scellé de sept sceaux. Donc un livre scellé que personne ne veut lire. Et qu'on peut dire que l'Apocalypse, tout de suite, va nous montrer la signification de cette sept sceaux. Vous voyez, là, on entre vraiment dans le rythme de l'Apocalypse. Premièrement, les sept sceaux. Je crois. Je dis je crois, parce que c'est interprétation. Que les sceaux et le livre scellés, c'est le livre de la prédestination. Et les sept sceaux montrent comme les sept dimensions du mystère de la prédestination. Et on peut regarder avec saint Thomas ce qu'est la prédestination. Et on peut regarder avec l'Apocalypse comment se réalise la prédestination. Les sept sceaux, c'est très très beau ça. C'est ce qu'il y a de plus compréhensible dans l'Apocalypse. Les sept. Puis vous avez les sept trompettes. Vous voyez, c'est assez beau parce que comme c'est une vision d'éternité sur l'Église en pèlerinage, on redécouvre les moments de l'acte humain. Les désirs, les déterminations. Puis, les émotions. Les tempêtes. Les tempêtes, c'est les émotions. C'est pour ça que si cette détermination regarde directement le Père, et elle se réalise à l'intérieur du cœur de l'agneau. C'est dans le cœur du Christ que se font toutes ces déterminations. Vous voyez, il y a une encyclique de Paul VI, je crois, sur le Sacré-Cœur, qui montre qu'on est prédestiné. Parfaitement cette encyclique, il faut regarder les sept derniers sur les sept. L'exécution, cette exécution, les sept sont. Les déterminations, c'est Dieu immédiatement, sans intermédiaire. Les sept exécutions, Dieu se sert d'instrument. Un moment très particulier. Je ne dis pas d'accalmie, mais quelque chose de spécial. On parle des deux démons. Je peux dire. Ceci, entre le ciel. Septième est un témoin. Et puis, le livre. Après les déterminations, les sept sceaux, vous avez un moment d'arrêt. Les sept. C'est une erreur de mettre sept si. En réalité, il y en a trois. Et c'est là où on voit la réflexion sur la signification de cette lutte. Chapitre 12. Le signe d'ancienne la femme passe. Et c'est à partir de ce chapitre 12 que nous avons la stratégie du démon. Ça nous est révélé. Une stratégie merveilleuse, terrible, intelligente. Et après cette stratégie du démon, bon, alors, regardez. Les chapitres 15, 5. Le troisième signe. Les coupes, c'est cueillir les fruits. C'est les résultats, si vous voulez, de cette coupe. Ceci a impliqué le point de vue du jugement. Je suis en derrière. Jette ta fossile. C'est impliqué dans ces sept coupes. Cette coupe enveloppe le point de vue de la moisson. Et vous avez chapitre 20 et 21. La Jérusalem céleste. Le fruit dernier, la Jérusalem céleste. Tout étendu vers Jérusalem céleste. Vous voyez, ce qui est très difficile, c'est que nous, instinctivement, nous lisons comme ça. Nous avons une peine énorme à comprendre une vision. Une seconde vision. Qui ne s'ajoute pas dans le temps, qui qualifie celle-là. Un troisième regard qualifie cela. Quatrième regard. Un, deux, trois, quatre. Et quelquefois, il y en a cinq. Causalité, cinq regards. Qui donne une espèce de coupe de la même réalité. Même réalité qui est regardée cinq fois différemment. C'est ça qu'on a beaucoup de peine, parce que instinctivement, c'est un livre historique, alors que c'est pas ça. C'est une vision d'éternité sur le pèlerinage de l'Église. C'était vrai au moment de Jean, c'est vrai au Moyen-Âge, c'est vrai maintenant. Et c'est ça qui nous dépayse tout le temps dans la vision d'Apocalypse. Vous devriez avoir ce regard sur nous. Vision d'éternité sur nous, comme Dieu nous regarde. Alors, quand on ne peut pas avoir l'intuition de Dieu, on se sert de cette place. Vous voyez, quand vous voulez regarder une très belle petite statue, la même réalité. Sous le point de vue des déterminations, sous le point de vue de l'exécution, sous le point de vue des signes, sous le point de vue des coupes. Alors, quand vous l'aurez lu, nous reviendrons et vous poserez toutes vos questions.
Maintenant, il est l'heure de notre mort.